La plage. L2P Convention en podcast. Rencontres, conférences et talk. Par la place.
Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la place pour cette troisième L2P Convention. Encore beaucoup de rencontres, de conférences, on a été gâtés, le programme est riche. Donc bravo et merci aux équipes de la place de mettre tout ça au point. Merci à vous d'être là aussi nombreux comme ça, ça fait plaisir. Ce serait bien moins intéressant si c'était pas là. Donc merci, d'autant que cette discussion... me tient particulièrement à cœur parce que aujourd'hui un grand monsieur est avec nous, quelqu'un qui a commencé dans sa petite ville de Lausanne en Suisse et qui s'est retrouvé à vivre de très grands moments de rap aux côtés de grandes légendes de cette culture. On peut nommer des Nas, des DMX, etc. Et puis qui s'est retrouvé aussi à façonner le son d'albums emblématiques. Alors il y a du Rof, du Diams, du Secteur A et j'en passe, et qui maintenant a aussi une carrière à l'international. On va pas name dropper tout le monde, mais il y a du Madonna, du Kendrick Lamar et plein d'autres. Et tous ces accomplissements, et ben Philippe, c'est le fruit de ta passion qui te porte depuis plus de 30 ans maintenant. D'une connaissance de cette culture et d'une exigence dans le travail qui force le respect. Donc je suis très content qu'on puisse revenir sur ce que tu as... Ce que tu as pu faire en fait dans ta vie, ce que tu continues de vivre aussi, parce que tu es loin d'être à la retraite, qu'on parle de ce métier d'ingénieur du son, qui est encore un peu trop méconnu peut-être, un peu trop encore dans l'ombre. Et puis voilà, que tu puisses partager tout ça avec nous, parce que tu parles rarement, voire même jamais. Je crois que c'est peut-être la première fois que tu parles.
Voilà, c'est, disons que je parle jamais. Pour moi, plutôt dire ça comme ça. Déjà, bonjour à tous. Merci d'être là et de partager ce moment. C'est vrai que j'ai passé un peu 30 ans dans une cave, donc on est en train un peu de sortir un ours de son logis comme ça. Donc c'est vrai que c'est très important, je pense, pour moi. Je me suis rendu compte que c'était un peu stupide de ne pas partager un tout petit peu tout ce que j'ai vécu en partant de Suisse. D'où ma présence aujourd'hui, pouvoir parler d'un parcours, parler de peut-être quelques clés. S'il y a des jeunes ingénieurs du son dans la salle, ce que j'espère, est-ce qu'il y a des jeunes ingénieurs du son dans la salle ? Voilà. Partager quelques clés, essayer de d'aider peut-être, ou peut-être d'éveiller certaines peut-être vocations, je ne sais pas.
Alors, juste parle bien dans le micro, je dis ça en ingé son, mais... petit bonus en plus, les gens ne le savent pas, mais on essaiera de faire une petite démo tout à l'heure avec des pistes on ne dit pas de qui, mais que tu as reçu, et tu nous montreras ce que tu en as fait.
Voilà, oui, je vais essayer de... Bon, on parle beaucoup de mix. C'est quoi un mix ? On va où ? Là, on va parler de mon parcours. On va essayer d'aller sur différents sujets. Mais bon, le vrai sujet, c'est le son. Ça a toujours été mon... C'est là-dessus que je focusais, le son et le résultat. Donc, je pense que c'est bien qu'on écoute un tout petit peu, deux, trois choses à la fin.
Ouais. On va revenir sur ton parcours, mais d'abord, une question de base, même s'il y en a dans la salle. C'est quoi ta définition à toi d'un ingénieur du son ?
Bon, question un peu compliquée, en fait. Déjà, ingénieur du son, il y a plusieurs types d'ingénieurs du son. On va avoir des ingénieurs du son en live, on va avoir des ingénieurs du son qui font du broadcast, donc de la radio. Tout ça m'a jamais intéressé. J'ai toujours été intéressé par le mix. C'est vrai que j'ai commencé par enregistrer. Ça m'a vite déplu, on va dire, ou saoulé. On le dira comme on a envie. Je l'expliquerai peut-être plus en détail tout à l'heure. Je pense qu'il y a une phrase qui peut résumer tout ça, en tout cas à mon poste, c'est arriver à transcrire entre deux enceintes ce qu'un artiste a dans la tête. En passant par un producteur. Quand ceux-ci ont un producteur, à un certain niveau, ils ont tous un producteur, mais je dirais que c'est un peu ça la chaîne. C'est, je dois transcrire le message, l'émotion, l'énergie, c'est un peu dur à dire, oui, l'énergie que l'artiste a dans la tête.
On va revenir sur ta vision aussi très particulière du métier. Remontons dans le temps. Comment toi, tu découvres le hip-hop ? Comment tu plonges dedans ? Qu'est-ce qui te matrix au départ ?
Toujours été passionné de musique, mais c'est vrai que le hip-hop m'a fait un électrochoc. C'est vrai que c'est une musique, quand j'ai commencé à l'écouter, qui n'existait pas en Europe. C'est-à-dire clairement en Europe, il n'y en avait pas à la radio que dans des émissions spécialisées. Je me rappelle peut-être le premier, comme ça, landmark, où on peut dire la chose qui m'a vraiment un peu marqué, c'était le premier album de Run DMC. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est cette musique ? Je ne comprends pas du tout ce que c'est quoi. Ils sont sur des boîtes à rythme, ils rappent, c'est quoi l'idée ? À côté, il y a Dalel Balavoine. Bon, de quoi est-ce qu'on est en train de me parler ? Enfin, pardon. Mais voilà, là, ça m'avait vraiment, vraiment marqué. Et depuis ce jour-là, ça ne m'a jamais quitté. Je fais ce métier pour ça. J'ai toujours été passionné de cette musique. Et après, j'explique. Bon, j'expliquerai un petit peu plus tard qu'il y a eu plusieurs étapes. Mais avant tout, c'est vrai que j'ai découvert cette musique. Elle m'a transporté et j'ai voulu savoir comment elle était faite.
Et ça t'a mené à deux choses. D'une part, à collectionner beaucoup de vinyles, de musique, de chercher beaucoup. Et il y a un voyage, on en avait parlé un peu avant, un voyage que tu fais à New York vers l'âge de 16-17 ans,
c'est ça ? Ouais, c'était à peu près 17 ans. Je suis parti avec un de mes amis qui s'appelle Seb Bache, qui produit pas mal de... qui produit beaucoup, encore à l'heure actuelle. C'est vrai que c'est une musique, elle m'est arrivée dessus, mais bon, comment est-ce qu'elle a été faite ? J'avais besoin de savoir, particulièrement dans une époque où là on se trouve en 89-90, les samples commencent à être utilisés parce que les machines avaient plus de secondes de sampling, donc il y a de plus en plus de samples de jazz qui étaient utilisés. J'avais envie de savoir comment c'était fait, et c'est vrai que New York restait quand même le spot, en tout cas aux États-Unis, relativement accessible pour aller chercher des vinyles. Donc pas d'internet, il faut quand même pas oublier qu'il n'y avait aucun moyen de se renseigner si ce n'est d'y aller. On pouvait acheter des magazines, on pouvait acheter des choses, mais il fallait y aller. Je me rappelle qu'on a pris le bottin, les pages jaunes de New York, on a déchiré les deux trucs qui correspondaient au record store et on se les a tous fait. Et là, c'est vrai que j'avais ramené déjà à l'époque 500 ou 600 vinyles de source. On cherchait des batteries sur les disques, on cherchait parce que je samplais, j'adorais ça. Donc voilà comment ça m'a mené en fait à en fait faire un voyage là-bas pour en fait découvrir la culture, mais du point de vue, on va dire, on vit dans une société qui maintenant on a les mêmes magasins dans toutes les villes, on a les mêmes disques dans toutes les villes, on a les mêmes gens dans toutes les villes presque. À l'époque, bon, New York, ça restait quand même quelque chose d'incroyable. Donc c'est vrai qu'on était, on était comme des gamins, quoi. À 17 ans, de toute façon, c'est un peu fou quand j'y réfléchis.
Et du coup, avec tous ces vinyles-là, t'essayais de quoi ? De retrouver les sources des samples que t'entendais. Exactement. Dans les morceaux de...
Exactement, j'essayais de retrouver les samples et les batteries. T'es un peu obsédé des drums, j'ai toujours été un peu obsédé des batteries. Et c'est vrai qu'on cherchait les breaks sur les disques. Bon, ça a passé par aussi, je sais peut-être que certains de vous sont au courant, mais il y a une série de disques qui était sortie qui s'appelait les Ultimate Break and Beats, où tous les samples connus des premiers disques de rap étaient dessus. Ils avaient changé les noms, donc ils sortaient les disques, mais pas avec les bons crédits. Du coup, on ne pouvait jamais savoir qui était le créateur originel du sample. Du coup, on allait rechercher les nouveaux samples. Voilà. Mais c'était avant tout pour ça. Ouais, c'était... Et une passion de la musique, parce qu'à cette époque-là, c'est là où j'ai découvert le jazz. Et le jazz qui était utilisé dans cette musique, en plus, ça aussi, ça a été incroyable. Un grand révélateur.
Mais du coup, à quel moment tu te dis que tu veux envisager le job d'ingé son ?
Bon, mon premier, on va dire que... Bon, ingénieur du son, ça a toujours été un travail un peu, enfin en tout cas à l'époque, on va dire particulier. En Suisse, c'était juste impossible de faire ce travail. C'est-à-dire que tu étais ingénieur du son, tu finissais, bon, alors oui, évidemment, faire des groupes de rock locaux, non merci. La radio, non merci, même si... ingénieur du son à la radio, c'était pas quelque chose qui m'intéressait, je m'intéressais à la musique. Mais donc, le premier métier que j'ai fait avant de commencer tout ça, c'était électronicien. Et j'ai toujours trouvé que, bon, toujours passionné de musique, et ingénieur du son, pour moi, ça réunissait les deux. C'est-à-dire clairement, l'électronique, la musique, bon, ingénieur du son, j'aimais bien les machines, je suis toujours passionné de machines, je développe des machines moi-même. Donc ça a toujours été, bon, c'était un peu... Ouais, une sorte de point qui réunissait les deux, on va dire.
Et assez tôt, il va t'arriver un truc, c'est que tu vas te retrouver assistant ingénieur du son vers 22 ans, on est en 95 à ce moment-là.
C'est ça, ouais.
Dans un studio qui est iconique à Paris, le studio Davou.
Voilà.
Un studio dans lequel en fait toutes les stars de tous les genres musicaux, que ce soit français, internationaux, passaient. Comment t'as vécu cette époque-là où t'as croisé énormément de gens ?
C'était complètement fou. Enfin, j'ai fait mes études en Angleterre. J'ai fait SAE en Angleterre.
C'est quoi SAE ?
SAE, School of Audio Engineering. Il n'y avait que deux écoles à l'époque. Et je me trouve là et pourquoi Paris d'ailleurs. Philippe Sdard m'avait marqué en fait. Il y avait quelque chose dans ce qu'il faisait, dans ce qu'il mixait, la façon dont il approchait les choses qui m'ont toujours un peu. Je me suis dit, c'est intéressant, j'ai envie d'aller à Paris. J'avais jamais mis les pieds à Paris de ma vie. Ça n'existait pas, Paris. Vous viviez en Suisse, c'était bon, c'est la France, ça n'existe pas. C'était New York, Los Angeles ou whatever, mais bon. Paris, ce n'était pas un truc qui comptait forcément. Bon, je me retrouve dans cette école, je me dis, je veux travailler dans un gros studio, n'importe où dans le monde. Ça peut être en Norvège, ça ne m'intéresse pas, je m'en fous du pays. Je veux travailler où il y a une SSL. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les grosses consoles de mixage. On peut peut-être les montrer si... Ouais, je peux peut-être les montrer, d'ailleurs, pour ceux qui seraient intéressés. Alors, attendez, excusez-moi. Donc, voilà, je voulais absolument... Voilà, alors attendez là, non, bouge pas, je monte juste ça. Donc voilà, je voulais travailler sur une console analogique. C'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. J'avais envie de comprendre ce genre de console. Il faut comprendre ce genre de console, c'est une partie du son du hip-hop. Sans ces consoles-là, ce son n'aurait jamais existé. Hein. J'avais besoin de les masteriser dans ma tête. Quand on dit les masteriser, moi j'avais besoin de la connaître, j'avais besoin de la comprendre. J'envoie 150 CV dans le monde entier, j'ai zéro réponse, of course. Et je prends mon téléphone, j'appelle les studios d'Avou et le mec au bout du, enfin Olivier au bout du fil qui me dit oui j'ai votre CV sur la table, je vous engage. Donc n'importe quoi depuis le jour 1. N'importe quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il m'a dit, il m'engage, c'est-à-dire, il m'a jamais vu. Vous parlez anglais ? Oui, ok, bah vous pouvez commencer en mars. Bon, n'importe quoi. Voilà la raison pourquoi Studio d'Avou. J'arrive et je me rends bien compte que je suis dans un temple de l'enregistrement. Je suis non seulement dans un temple de l'enregistrement, un studio mythique qui a vu passer tout le monde. Et là, j'apprends vraiment une philosophie, une éthique de travail. Pas encore une vision, parce que je pense qu'on développe chacun sa propre vision, mais vraiment j'apprends, c'est ça, ok d'accord, c'est ça le bise, oui d'accord, ok. Et là je fais des sessions, alors une de mes premières sessions qui n'a aucun rapport avec le hip-hop, mais c'était Michel Legrand qui conduisait un orchestre de 115 musiciens avec Charles Trenet. Bon, ça reste quand même des trucs, une fois qu'on vous l'a vu dans votre vie, c'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant, il y a une façon de travailler. Et voilà, je reste une année assistant à Davout, où je vois les Red Hot Chili Peppers, enfin on ne va pas dropper des noms, on s'en fiche, mais c'est vrai qu'une vraie façon de travailler et une vraie façon de se positionner envers un artiste. C'est pas ton pote, t'es pas dans un... Non, t'es professionnel, tu représentes le studio. Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup amené pour la suite de ma carrière.
À ce moment-là, tu vas aussi faire ton premier placement en tant qu'ingé son, ou pas longtemps après.
Pas longtemps après.
C'est sur un morceau d'Assassin, en duo avec Supernatural, qui est un rappeur de Brooklyn, en tout cas un rappeur new-yorkais, spécialisé un peu dans les freestyles et tout. Ouais. Le morceau, c'était Underground Connection. Comment ça se fait comment tu te retrouves à devenir ingé son sur ce morceau-là? Parce que, si vous ne savez pas, c'est des grandes stars à ce moment-là. Et toi, tu débutes. Comment tu te retrouves à travailler sur ce morceau-là?
Alors, une histoire un peu particulière. Alors, c'est vrai que j'assistais dans deux studios. Un studio qui était le studio ADS à Ivry, qui est un studio dans le sud de Paris. Je me retrouve dans une session avec Yazid, qui était un ex-danseur d'NTM, DJS qui produisait. Enfin, c'était quelque chose, quoi, on va dire ça comme ça. Et puis l'ingénieur du son, c'était Marc Palladino, qui était l'ingénieur du son d'NWA. Et Squat voulait absolument faire mixer son titre par Marc. Marc, on dirait, est un petit peu spécial, on va dire. Donc un jour, il a décidé de partir en visite à Londres. Je me suis retrouvé tout seul dans le studio, véridique, hein, et où Squat arrive avec sa bande sur le bras. Ouais, je veux faire mixer mon titre, Et on a un ami en commun qui lui dit « Écoute, donne-le à Philippe. Si t'aimes le mix, tu nous payes. Si t'aimes pas le mix, il nous paye pas. » Bon, n'importe. Bon, final, je crois que ça a vendu 100 000 disques. J'avais jamais mixé de ma vie. J'y ai été totalement en mode instinct, quoi. Enfin, vraiment, c'était de l'instinct sur le board, en train de tourner des effets. Enfin, c'était incroyable. Mais donc, au culot, quoi, la réponse, je dirais. C'est juste, bon, bah vas-y, de toute façon, si on te donnera pas ta chance si t'y vas pas, quoi. Donc il était devant moi, je lui dis viens, on y va. J'allais le voir quand j'avais 14 ans, j'allais le voir en concert, donc c'était un peu bizarre quoi. Enfin d'avoir le mec et lui dire viens, je te mixe ton titre, et je savais pas mixer, hein, faut bien être clair. Je crois que je sais toujours pas, mais enfin je reset toujours tout à zéro. Mais je veux dire, c'était n'importe quoi. Comment tu confies à un gamin si je vous montre la tronche que j'avais, je veux dire, si impossible de me confier un mix. Je veux dire, impossible. Bon, en l'occurrence, ça s'est fait comme ça.
Ça t'a ouvert des portes après ce mix-là ou pas?
Parce que le morceau, ça m'a ouvert la porte d'Écrire contre l'oubli, qui était un album qu'ils ont sorti juste après. Puis alors après, ça a été la folie. Mais la folie. Tout le monde voulait mixer avec moi. C'était n'importe quoi. Et à la même période, et c'est là où on peut rebondir, c'est là que j'ai rencontré mon mentor.
Oui, c'est ça. Mais avant, parce que j'ai vu quand même dans ton CV, t'as fait Faudel à ce moment-là. Genre, tu passes de.
Ah oui. Ah, ça a l'air qu'il veut. Voilà, d'accord. Ouais. Okay.
Comment,
non, j'ai fait Faudel, absolument, bien sûr. Et pas que d'ailleurs. Ouais, c'est vrai que c'était à peu près au même moment. Mais il y avait, je crois, alors si je me souviens bien de l'histoire, le mec qui produisait Faudel pour ce titre-là faisait une version spéciale et en même temps il produisait les titres de hip-hop, je crois, pour le secteur A. Sauf erreur que c'était Jimmy Finger, si je ne me trompe pas. Je crois qu'il avait la prod sur Donna, il m'a dit viens mix-le, sur Faudel, et puis viens mix-le, viens on le fait ensemble. Et du coup, voilà, c'est là que je me suis retrouvé là-dessus. Okay.
Mais donc, autre rencontre plus importante peut-être que celle de Faudel, c'est
il n'y a pas de rencontre plus importante.
C'est vrai. Un ingénieur du son américain.
Voilà.
Du nom de Tony Smalios, ouais. Qui lui pour le coup est un monsieur qui dans les années 90 a travaillé avec que des légendes aussi, il y a du Mobb Deep, il y a du Biggie, il y a du Big Punisher, du DMX et plein d'autres. Comment t'en arrives déjà à le rencontrer? Comment tu te connectes avec lui?
Donc je suis assistant sur Odavoo pendant... Bon, normalement le parcours d'un assistant c'est environ 3 ans, là bon après une année j'étais déjà lâché à mixer comme on l'a dit. Durant cette année-là, un jour, on me dit, bon, parce qu'on était au courant du planning 4-5 jours avant, il y avait 3 assistants pour 3 studios. Et puis, je dirais, évidemment que les autres assistants, ils n'ont rien à foutre du hip-hop, quoi. Enfin, qu'est-ce que tu me racontes? C'est quoi cette musique? On n'en a rien à foutre. Nous, on est dans le machin orchestre, film, ou alors on aime le rock, quoi. Mais toi, avec ton machin de musique programmée, il n'y a pas de problème. Tu peux faire toutes les sessions des mecs qui viennent avec des drum machines, on est content. Du coup, je me retrouvais un peu dans ce cycle-là et on me dit, demain, il y a Tony Smalios. Bon, tous les autres, on n'avait rien à foutre, on ne savait pas qui c'était. Mais il y a qui? Il y a Tony Smalios.
Bon, c'est-à-dire que toi, tu connaissais déjà.
Moi, je savais très bien qui c'était, j'avais tous les disques à la maison. Donc, j'étais là, mais donc, stop. Le mec avec qui je pourrais vraiment apprendre quelque chose va venir demain. Et puis je vais pouvoir le voir travailler sur un projet qui s'appelle Shkunk, je crois, qui était un projet qui était sur un label qui s'appelait Big Cheese Record, un relativement ancien label. Je pense peut-être s'il existe toujours, hein. Pardon s'il existe toujours. Mais alors il vient, il venait de finir Tribe Called Quest, donc pour moi qui était quand même un groupe de référence. Très difficile moment au début parce qu'il me teste, il me teste, il me teste, il me teste. Mais je vois de A à Z que une façon de travailler que j'ai jamais vue avant. C'est-à-dire que tous les mecs qui m'avaient appris mon métier avant, c'était mais ça n'avait rien à voir. Tout était dans le rouge, tout était n'importe comment. Il y avait aucune règle. C'était vas-y on y va à fond. Pff, la console, voilà. Je me dis mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et tout d'un coup ça sonnait comme une montagne. Puis donc il me dit ah t'as vu comment je fais? Puis pendant 3 jours, il me dit « Bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien. » Là, je t'ai fait un peu souffrir, c'était un peu dur. Et c'était vraiment dur, hein, quand je vous dis mal parler, enfin bon, c'est, je ne vais pas donner trop de détails. Viens, je vais t'expliquer comment on fait. Et là, il a vu que j'étais passionné par ce métier, avant tout, passionné par cette musique. Et là, il a commencé à me transmettre un tout petit peu les tricks. Parce que bon, faut être clair, il y a une façon de mixer cette musique. Il y avait un gap entre la France et les États-Unis qui était tellement énorme, bon, il ne fallait pas se poser la question. C'est-à-dire que les mecs, ils mixaient, puis les autres, ils y allaient, quoi. Et c'était la grosse différence. C'est-à-dire que je reviens toujours au même truc. Comment tu veux mixer du hip-hop si tu n'es pas hip-hop? Je demande, je pose la question. C'est pas, tu ne peux pas faire du mix d'une musique que tu ne connais pas ou que tu n'es pas. Bon, lui, il était à fond dedans. Il avait même bossé à l'époque. Il avait fait... Ah, je ne me rappelle plus, le label Tommy Boy, là. Je me souviens plus de... Bon, il a eu tout fait, des débuts. C'est carrément Cool, de Cool on the Gang, qu'il avait fait rentrer dans le studio où il a appris. Et puis là, il a tout fait. C'est-à-dire qu'il a fait Aerosmith, Elton John, et en parallèle, il faisait Tupac, Biggie, bon, Mobb Deep. Alors, le Mobb Deep, The Infamous, bon. Et moi, rien que de savoir comment ça pouvait être fait, bon, j'étais comme un gosse. Comme, ça n'intéressait personne, hein, dans le studio. C'est-à-dire, vas-y, va avec les mecs, il n'y a pas de problème. Moi, j'étais là, mais il n'y a pas de souci, j'y vais. Et là, c'est vrai, j'ai appris beaucoup. Les basses filtrées, ce son de cette époque-là, 95, 16, 17, 18, tout ce son, il faisait vachement DITC, pour ceux qui savent, voilà, il faisait tout ça, bon, il y avait ce son, quoi.
Mais donc, là, tu le rencontres à Paris.
Davout.
Ouais, Davout. Voilà. Tu vas passer du temps avec lui et vous bougez ensemble à New York.
Je vais passer du temps avec lui. Lui, il était basé à New York et il me dit, viens à New York, je te trouve des plans et tout ça. Alors bon... J'étais un peu en mode, on va dire, illégal à New York pendant quelques années. Je l'ai suivi là-bas. Et là-bas, c'est vrai que, bon, je vivais un peu...
Tu nous racontes.
Ouais, un rêve éveillé, quoi. Bah ouais, enfin, c'est-à-dire que...
Parce que là, on est en quelle année?
On est en 96.
Ouais, 97. Donc lui, il mixe avec les plus gros stars de cette
lui,
époque-là.
Lui, il mixe avec les plus gros stars de cette époque-là. Et il me dit, passe au studio. Alors évidemment, je suis un peu là. Attends, stop. Je suis en train de parler, d'aller faire de la pêche le week-end avec Ali Shahid de Tribe. De quoi c'est pas possible cette situation. Et c'était ça tout le temps. Big Pun, Fat Joe, Puff Daddy. Bon, puis je suis assis à côté des mecs. Puis ils me font, attends, je te fais écouter mes derniers beats. Bon, je viens de Lausanne, quoi. Faut pas oublier, je viens pas de Paris. Donc je veux dire, j'y croyais pas. J'étais passionné de cette musique. Le mec, il me tape sur l'épaule et me dit, attends, je te fais écouter mes prods. Puis là, je vois leur système. À ce moment-là, je découvre ce système, je vois comment ils travaillent aux États-Unis. J'essaye d'en apprendre beaucoup, c'est-à-dire d'être inspiré, de « ok, d'accord, ah, ça fonctionne comme ça », et d'appliquer ça ici, en France. Parce que ça ne s'est jamais... Donc, pour revenir au moment où j'ai fait Le Assassin, ça ne s'est jamais arrêté, j'ai pris peur, en fait, parce que tout le monde m'appelait. Et je suis quelqu'un, j'ai besoin de bien faire les choses. C'est comme là, je viens devant vous aujourd'hui, j'ai 49 ans, je me sens enfin prêt à pouvoir parler de ça. Si je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt, vous n'obtiendrez rien, aucun interview, rien. Si je ne suis pas prêt et que je ne peux pas bien le faire et bien partager, je ne viens pas. Donc, pour en venir, j'ai perdu le fil, tout va bien. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure?
Je ne sais plus. Bon.
Pardon.
Mais tu es prêt en tout cas.
Bon, voilà.
Non, tu nous expliquais qu'avec lui aussi, tu as modifié ta vision.
Voilà, j'ai modifié ma vision. Oui, j'avais énormément de demandes. Et les mecs, ils m'ont fait flipper. Ah, viens mixer et tout, viens mixer. Non, mais attends, je sais pas mixer. Mais tu dis n'importe quoi, écoute comment ça sonne. Non, t'as pas compris, je sais pas mixer. Donc j'arrête de mixer. Truc de dingue. Je dis au mec, non. Ce qui est quand même dingo, parce qu'on parle de time bomb, on parle de... Non, je viens pas. Et comment ça tu viens pas? Je viens pas, j'enregistre. J'avais envie de recommencer la boucle à zéro. Et à ce moment-là, Tony décide, je sais pas par où dans sa tête... Tout ce qu'il enregistre en Europe, quand il vient mixer en Europe, il veut que ce soit moi qui l'enregistre. Du coup, ça me plante sur pas mal de projets, en fait. Ça me met sur pas mal de projets, avec Sébastien Farran, en l'occurrence, sur L432, donc les premiers Lunatique, Oxmo, je crois, un des premiers titres qu'il a dû enregistrer dans sa vie, parce que je l'ai vu arriver, je pense que c'était, bon, on est au studio, ah ok, d'accord, il y a des mesures, enfin bon, voilà, c'était dingue. Et du coup, je me retrouve à enregistrer tout ça, et Tony mixait. Du coup, ça me crée un réseau, mais j'ai mis un moment avant de réaccepter de mixer quand même. Hein. Ça m'a fait peur, quoi, j'avais peur. En fait, c'était le syndrome de l'imposteur un peu. C'est-à-dire, comment tu vas me demander de faire un truc que je ne sais pas faire? C'est juste de l'instinct, j'y vais comme un... Comment j'y vais comme ça, je tourne les trucs. Après, je me suis senti mieux, mais au début, c'était vraiment dur.
Mais donc, avec lui, parce que tout à l'heure, tu parlais du fait que tu avais appris beaucoup à Davout, mais que tu n'avais pas encore chopé ta vision.
À Davout, j'ai appris l'éthique de travail, que j'ai appliquée absolument partout, sur tous les projets après. C'est-à-dire, un client est un client, tu le respectes. D'où qu'il vienne, d'où qu'il soit, d'où comment il se comporte. C'est ton client, c'est pas ton pote. S'il est 6 heures en retard, c'est ton client. J'ai déjà attendu 3 jours au studio que le mec, il veuille bien venir. Bon, t'es payé les 3 jours. Bon, est-ce que tu vas lui dire t'es en retard? Bah non, il y en a qui peuvent, hein, mais c'est ton client. Je me rappelle d'histoires que Tony me racontait avec D'Angelo. 3 mois. Tout le monde est dans le studio. Est-ce qu'il va venir aujourd'hui? Je ne sais pas s'il va venir. Peut-être il vient, peut-être il ne vient pas.
Donc la légende est vraie. Pour
la légende est complètement vraie. Il arrive et quand il arrive, il arrive. Le truc est incroyable. Mais il m'a quand même fallu 3 mois pour aller au studio. Et le studio était booké. Je rappelle, c'était genre 2 000 euros par jour vide, un studio. Enfin, ça coûtait des fortunes et des fortunes. Ça aussi arrivait en France, hein, pas les trois mois, mais les 2, 3 jours, 4 jours que les mecs veuillent bien venir. Donc, l'éthique, je l'ai appris à Davout. Et après, la façon technique d'approcher cette musique, je l'ai appris avec lui. Pousser les machines, globalement, pour le faire très court. Y aller vraiment, c'est-à-dire pas avoir peur. Les machines sont là pour être utilisées. Je vois jamais ces machines comme des machines. Pour moi, c'est des instruments de musique. Je tourne, j'écoute, ça sonne pas. Et j'aimerais vraiment dire à tous les jeunes gingés qu'il y a là, toute personne qu'il y a ici, la seule chose qui compte, c'est la vision. Ok ? Si vous savez pas où vous allez, oubliez. Si ça vous apparaît pas dans la tête... Bon, voilà. Je sais pas quoi dire de plus, mais...
Non, mais...
en gros...
On peut s'arrêter là. Non, mais le pour toi, c'est un métier qui est profondément artistique. Avant même d'être technique, voire qui n'est même pas technique, en fait, qui est profondément artistique.
Qui n'est pas du tout technique. Ouais. En fait, c'est-à-dire, je pense qu'il faut 15 ans pour intégrer la technique, c'est-à-dire qu'elle ne devienne plus technique. Globalement, vous avez tellement intégré ce qu'il y a dans les machines. Alors, c'est vrai que je connaissais les machines jusqu'aux composants. Donc, évidemment, quand j'attaquais la SSL, je savais... d'avance, le bouton, à quel niveau il allait être, la réaction que ça allait avoir dans la table. Quand le kick, il arrivait, si on parle de celle du hip-hop, je savais exactement le point où, ok, ça va faire comme ça, on va aller ici, c'est parti, j'avais le truc dans la tête, je savais où j'allais. Quoi. J'ai jamais, jamais douté, en fait. Ça apparaissait, enfin, ça apparaît, en fait, toujours. Ça apparaît toujours.
Et pour le côté vraiment artistique, même relationnel aussi avec les artistes. Parce que
je dirais artistique, c'est... Comme je dis, il y a la vision de l'artiste, donc son, la comprend. Enfin, j'essaye de transmettre quelque chose que je dis toujours, c'est quand on est un jeune artiste et qu'on cherche un ingénieur du son, quand on doit lui expliquer sa musique, c'est déjà foutu. C'est déjà foutu. Les mecs, arrêtez de vous casser la tête. C'est mort. Si le mec il comprend pas tout de suite en faisant play, c'est bon, je sais où on va aller. Je pense que c'est compliqué d'expliquer sa musique, c'est compliqué d'expliquer son but. Donc c'est pour ça que le mix, je le vois pas du tout techniquement. Par contre, si on n'a pas les bases techniques, évidemment c'est dur de parler que d'artistique, parce qu'il peut se créer des énormes erreurs. Trop de basses, trop d'aigus, tout ça. Mais c'est vrai que j'ai toujours vu ça comme une couleur en fait. J'ai toujours vu ça comme un habit. Il y a le producteur qui est là, il sait où il veut aller. Il y a l'artiste qui est là. Ok, bon, je vais m'occuper de tout ça. Je vais mettre ça en forme.
Si on revient sur ton parcours et la chronologie un peu, après ton expérience avec Tony Smalios, on est fin des années 90, début des années 2000. Tu vas enchaîner beaucoup en solo, là, cette fois-ci, avec des grands noms du rap. J'ai cité tout à l'heure, bon, t'as Rof, t'as du Diams, t'as du Arsenic aussi. Comment tu te retrouves, là, sur ces projets-là, et comment ça se passe, surtout ?
J'enchaînais 320 mix par an, je crois, en 300 et 320 mix par an pendant 10 ans. Donc, n'importe quoi. Enfin, je veux dire, n'importe quoi, physiquement, n'importe quoi, mentalement, n'importe quoi. Il s'avère que j'ai jamais été dans une maison de disques, j'ai jamais été dans une fête de maison de disques de ma vie. C'est véridique. J'ai travaillé. Du coup, je pense que j'avais une vraie éthique dans mon job qui faisait que, quand même, c'est du bouche à oreille. Je veux dire, quand un disque marche bien, et comme les mecs devaient quand même acheter des disques avant, donc les crédits existait, les mecs tournaient quand même les pochettes et ça se savait vite. Donc en fait, d'un projet à l'autre, ça commence par un projet, l'autre projet pense que le projet, puis après, il faut quand même pas se leurrer, il y a des pôles, il y avait deux labels, il y avait deux labels qui traitaient EMI, le secteur A, Kenzie, Benjamin Chelvani, t'es dans ce truc-là, bon, ah, j'ai un nouveau projet, est-ce que tu veux me le mixer ? Donc c'est vrai que t'étais très rapidement dans un système si t'étais, en tout cas, si tes disques fonctionnaient. Parce qu'effectivement, si ça passe jamais en radio ou que les mecs sont pas satisfaits, ça va aussi vite dans un sens que dans l'autre. Mais c'est vrai que je pense que c'est du bouche à oreille et j'ai jamais été... Oh, j'aime pas dire ça, putain. J'ai jamais été chercher le travail. Il est venu à moi et c'est pour ça que je le respecte. Ça, par contre, c'est une notion importante. Je dis rarement non, à part si vraiment, vraiment, c'est pourri. Mais enfin, bah, faut le dire quoi. Ou je devais demander très cher. Mais je vais dire, c'est pas. Mais je vais dire, voilà, c'est plus du bouche à oreille, c'est plus un réseau. Et je crois qu'on est dans, quand t'es dans une scène, t'es dans une scène. T'as toujours 3-4 mecs hein, qui bossent et puis c'est tout. Il y a pas tellement.
À cette époque-là, toi, à quel défi en tant qu'ingé son t'es confronté dans le rap de cette époque-là ? Que ce soit des défis artistiques ou humains d'ailleurs.
Ouais. Artistique, je dirais. Alors, j'ai jamais senti de défi artistique parce que je me suis jamais senti connecté à cette musique. Je transcris. Bon, le rap français, genre, ça n'existait pas. C'est fou ce que je dis. Je sais que je le dis là, mais c'était fou. C'est fou toujours. Non, je parle de quoi ? De rap français. Pardon ? Donc, je sentais pas de pression. C'est-à-dire que c'était du hip-hop en français. Très bien. Je vois où je dois aller. Maintenant, humainement, il y avait quand même des défis. Ouais, c'est vrai que bah, je venais d'un milieu en Suisse. Bon, voilà. Là, tout d'un coup, t'arrives. Les mecs qui viennent du ghetto, c'est le bordel partout. Ça m'impressionnait pas plus que ça. Mais enfin, il fallait quand même cadrer. Il fallait quand même, je crois, fallait être un peu fou des moments, surtout. Parce que fallait pouvoir lui dire, va te faire enculer. Est-ce que tu as compris ce que je te dis ? Casse-toi de là. Oui, mais on m'a jamais parlé comme ça. Il n'y a pas de souci, mais tu vas quand même partir de ma cabine parce que là, vous êtes, je vous ai compté, vous êtes 47. Et c'est vrai ! Les gars étaient 47 en train de hocher la tête derrière mon dos. Et le son à fond, quoi. Oh. Donc, il fallait quand même un peu de cran. Des moments où je me suis dit, merde, j'ai peut-être un peu dépassé les bornes.
C'était jamais rien arrivé.
Si, si. Ah, ouais. Il y en a qui n'ont pas bien pris la chose. Donc, oui, il m'est arrivé. Il y en a qui ont essayé. Ça s'est moins bien passé. Mais oui, non, il y a eu 2-3 petits ennuis. Mais non, il n'y avait pas vraiment de défi. Je crois que du moment que tu respectes la personne avec qui tu travailles, t'as pas de défi humain. Oui, il arrive en retard. Ok. Oui, il a 25 potes qui sont là. Oui, mais bon, si ça te plaît pas, tu fais une autre musique. Donc, tu prends le package, en fait. Moi, j'aimais cette musique. Je pensais vraiment savoir où je pouvais l'amener. Bon, vas-y, c'est pas grave. Il y a des soucis. D'accord, c'est un peu. C'était. J'ai pas senti ça difficile, mais je sais que pour d'autres ingénieurs qui se sont fait raser la tête, enfin bon, je parle de petits détails comme ça, hein. Par exemple, hein. C'était un peu plus tendu, quoi.
Au-delà de au-delà de ça, non, mais le rap à ce moment-là, c'est une musique encore très jeune en termes de, d'âge, quoi.
Ouais, bien sûr.
Et il n'y a pas forcément une tradition de mix très ancrée par rapport à d'autres courants musicaux à ce moment-là. J'ai l'impression que dans ces années-là, vous étiez en train de créer les marques du mix. Comment vous avez façonné ce truc-là ?
Je crois que c'était... Il y a eu un peu, je trouve, deux périodes. Il y a eu un moment où le rap français essayait d'être du rap américain dans son son. Beaucoup d'ingénieurs américains venaient. Traitait le son français, le faisait, ça marchait, des fois bien, des fois un peu moins bien. Il y a eu cette quête un peu du son américain. Et je trouve vraiment que la force du rap français, ça a été de trouver son son. À un moment, le rap français a trouvé son son. Donc, qu'est-ce que j'entends par trouver son son ? Trouver son flow dans le rap, trouver son... probablement les samples qu'ils utilisaient. Tu vois, des samples peut-être, alors c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais plus de musique africaine, ou peut-être plus orientale, ou plus... Il y avait un autre mélange que les samples américains qui utilisaient du jazz. Et à ce moment-là, je trouve qu'il y a eu moins ce truc « je veux absolument copier ». Donc, ils ont commencé à créer leur propre son, je dirais.
Tu situes à quel moment, ça ?
Alors, moi, j'aurais envie de dire 2000, mais... peut-être que c'est un peu avant.
Et en même temps, à ces périodes-là, la qualité sonore évolue aussi très vite. Parce qu'entre un Rov 2001 et un Diams 2006, que tu as tous les deux mixés,
ouais.
c'est des années-lumière en termes de...
Ouais, alors je crois que c'est plutôt des années-lumière. Alors, si tu prends ces deux exemples-là, le résultat est peut-être, ou te sens peut-être... on m'entend bien d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que je fais un peu comme ça. Oui, c'est bon. On peut se dire que c'est des années-lumière, mais je dirais que c'est plutôt le résultat qui a des années-lumière. C'est-à-dire, on a Rof d'un côté qui aura une certaine vision et un certain message à transmettre, et on aura Diams qui aura absolument autre chose à transmettre. Pas du tout que c'est moins important, plus important, mais Diams va beaucoup plus se rapprocher depuis toujours d'un disque de pop que Roff, qui avait envie de sonner le plus lourd possible et le plus fort possible. Donc c'est peut-être plus au niveau du résultat, parce qu'au niveau de la prod elle-même, non, à part les producteurs qui ont un peu changé, c'était plus le résultat que tu allais chercher.
On est obligé de, puisqu'on parle, on évoque des beaux noms depuis tout à l'heure et des belles sessions studio. Est-ce qu'il y a un peu d'anecdotes à raconter ? C'est le moment, là. Est-ce que tu as des choses qui t'ont marqué ?
Ah, c'est chaud, les anecdotes. Parce que ça peut t'emmener des ennuis, les anecdotes.
On est entre nous.
C'est pas forcément... Il y a toujours eu des moments extraordinaires. Deux jours d'écriture, tu te dis, bon, est-ce que le mec, il va y arriver ? Comme gynéco, il se lève, il prend le micro, il pose son couplet, il se rassied, puis c'est fini. Après deux jours d'attente. Donc oui, il y a des situations où tu te dis, mais le premier album d'Arsenic, absolument incroyable. 3 ou 4 titres par jour. C'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Après, c'était plutôt un titre tous les 3 jours au deuxième album. Ça a vraiment switché. Voilà. Bon, je dirais pour les anecdotes, c'est un peu ça dans le rap français, on va dire.
Est-ce qu'à ce moment-là, en tant que toi, t'es ingé son à ce moment-là, est-ce que t'es mal perçu d'être ingé son dans le rap par rapport aux autres courants musicaux que tu vas faire aussi ?
Ouais, ça a été... Ça n'a pas été dur, personnellement, parce que je prête aucune attention à ce que peuvent penser les gens. Mais oui, en fait, parce que t'étais quand même associé au disque que tu faisais. Et oui, les mecs foutaient le bordel. Oui, c'était le bordel. Oui, les mecs considéraient pas du tout que tu mixais de la musique, puisqu'elle était électronique. Je mets ça dans le même chapitre que la musique électronique, hein, parce qu'elle est quand même faite avec des sampleurs, avec des drum machines. Donc, de toute façon, tu chantes pas, donc tu fais pas de la musique. Et comme t'as pas d'instrument, tu fais pas de la musique non plus. Donc, t'es un mec qui mixe pas de la musique. T'as un mec qui mixe cette musique-là. T'as vu les mecs là-bas ? Ça. Et ça, moi, j'ai toujours trouvé difficile ici ce jugement qu'il n'y avait pas aux États-Unis. Parce que, bon, vu le courant qui était beaucoup plus ancien, le hip-hop a toujours été respecté dans ce qu'il était, où c'était difficile. Et en tant qu'ingénieur du son qui faisait que ça au début, c'était pas, non, on n'était pas, moi, j'ai pas eu l'impression d'être spécialement bien vu, quoi. T'étais vraiment le mec qui faisait cette musique, quoi.
D'autant qu'à cette période-là, toi, tu mixes aussi avec des Johnny Hallyday, Charles Aznavour.
Je faisais d'autres choses, ouais. En 2000, l'ouverture, elle a commencé en 2003, je dirais. Là, c'est vraiment, là, j'ai senti vraiment un changement. Donc, ça faisait déjà 7-8 ans que je mixais. Ouais, à peu près. Donc ça faisait quand même un certain nombre d'années. Et là, la même semaine, je mixais Oxmo, puis Charles Aznavour, avec un orchestre. Donc ça, c'était incroyable. C'est clair de... Ça, j'étais très fier, parce que je me suis dit, bon, t'es capable de faire les deux, on te demande pour les deux. Et c'était ça qui était complètement fou. C'est-à-dire que quand ils se sont rendus compte que le hip-hop allait devenir quelque chose, ou était quand même un son, ou qu'on traitait les choses d'une certaine manière, les mecs qui n'en faisaient pas étaient intéressés par les ingénieurs. Parce que quand même, le métier d'ingénieur du son dans le hip-hop, il fait vraiment partie de la production, en quelque sorte. Donc, ils étaient intéressés quand même pour avoir ce jus, quoi.
Mais alors, dans quelle mesure c'est totalement différent à cette époque-là, dans les années 2000, de mixer, je parle du point de vue du son, hein,
ouais, ouais.
De mixer un Johnny ou un Arsenic, tu vois ?
Le but, la vision, encore une fois, là où tu veux aller. Bon, mis à part ça, il y en a un qui me parle, puis l'autre qui ne me parle pas. Donc, je parle au niveau style. Johnny, c'était beaucoup plus dur. Ça me parle pas. Enfin, c'est-à-dire, tout le respect que j'ai, mais je veux dire, tu vas aller où, tu veux quoi, ouais, okay, un peu de reverb là, d'accord, ok. Mais c'est dans le cœur que ça se passe, quoi. Moi, je oui, ok. Alors, c'était donc plus dur. J'ai donc dû m'adapter à ça et très rapidement, tout ce qui était français de variété, j'ai dit non. Parce qu'en fait, ça ne me parlait pas. Je peux pas. Amène-moi une batterie programmée, amène-moi Daft, amène-moi ce que tu veux, ou amène-moi, mais amène-moi pas de la variété, parce que je suis pas fait pour ça. Je la comprends pas, en fait. Et pour moi, c'est important que je comprenne ce que tu veux donner. Et Johnny, c'est un vraiment mauvais exemple. Mais tu vois, d'autres choses de variété qui avaient pas d'identité, enfin, peu d'identité, quoi, en tout cas pour moi.
si on revient au rap et qu'on prend un peu de recul sur les 20 dernières années, le rap il a évidemment beaucoup évolué sur tous les points, y compris sur celui du mix. Quel regard toi tu portes sur l'évolution de l'ingénierie sonore dans le rap entre années 90 et 2000 et maintenant?
Bon, énormément de choses ont changé comme tout le monde le sait. Moi j'essaie toujours de rester positif. Beaucoup plus de jeunes peuvent accéder à ce métier, donc à cause des home studios, à cause du matériel qui a vraiment baissé en prix. Si on peut faire un tout petit aparté.
Vas-y.
Un studio, comme vous voyez là, me coûtait à vide 85 000 euros par an. Donc à faire tourner à zéro.
J'avais sans pas... personnel, l'humain. Là,
donc avec l'humain dedans. Okay. Mais c'est-à-dire, je n'ai pas encore mixé. J'ai allumé la consomme, 1000 euros par mois. J'ai payé l'assistant, j'ai fait les réparations. Donc je suis à 85 000 euros. Et bon,
il faut mixer.
On peut arriver au même son qu'il y a là maintenant avec un laptop. Je dirais, pas exactement, mais quasi. Je trouve pas que le delta est énorme. On a peut-être perdu 5-10% du son, mais bon, c'est sur mon laptop et voilà, je l'emmène aujourd'hui avec moi. Donc je dirais, je suis pas sûr que la qualité sonore globale elle augmente. Mais bon, si j'écoute un disque d'NWA en 89, bon, ça sonne, c'est un peu dur, quoi. Ça sonne un peu médium. Donc moi, je porte un regard où je trouve beaucoup de choses vont de l'avant. Si on écoute, je sais pas, si je peux prendre un exemple dans le hip-hop, en tout cas Kendrick, je trouve ça super bien mixé. Particulièrement les albums d'avant, mais enfin un petit peu plus vieux, mais je trouve ça incroyable. Les idées sont incroyables. On sait qu'il y a des jours et des jours et des jours de mix. On sait qu'il y a des jours et des jours de studio. Donc voilà, j'en porte un regard positif avant tout et il y a de plus en plus de monde qui peut faire ce métier, ce que je trouve super.
Mais si on parle du rap français, tu parlais tout à l'heure peut-être du retard qu'il y a eu un moment où ouais. Les mecs allaient chercher des ingé-sons américains. Tu vois.
Ouais.
Est-ce que tu penses que ce retard s'est comblé aujourd'hui?
Oui, parce que le rap français fait du rap français. Je veux dire, alors, je ne suis pas là pour juger ce qui se passe ni ce qui se fait, ça serait vraiment prétentieux, ça me parle moins qu'avant. J'ai l'impression qu'ils ont un peu tous le même son. Y a quand même un truc de texture, mais ils ont trouvé leur texture. Je ne crois pas que ça leur viendrait à l'idée, une demi-seconde, d'aller chercher Ali qui mixe Kendrick pour mixer leur truc ici. Peut-être que oui, je me trompe, mais je ne crois pas. Donc je pense qu'ils ont trouvé leur écosystème. Et ça, c'est super. Parce qu'avant, ils étaient quand même toujours en train de regarder. Puis nous, on était comparés souvent à des Américains. Ouais, mais bon, il y avait toujours ce truc-là. Maintenant, alors j'ai l'impression que c'est parti et c'est pour le bien.
Il y a des trucs qui, récemment, des albums qui t'ont mis des claques, toi, du point de vue du mix? C'est long comme réflexion. Hein.
Ouais, c'est dur. Parce qu'en fait, j'écoute jamais le mix. J'écoute le son. Est-ce qu'il correspond à ce que j'entends? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a été descindé? Est-ce qu'il n'y a pas un truc? Est-ce que le mix correspond à l'artiste?
Ouais, parce qu'il y a une différence entre un bon mix et un mix juste.
Voilà. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que un mix techniquement juste, il est nul à tous les coups. Bah, parce qu'il est techniquement juste, il n'y a rien qui dépasse, tout est nickel. Bon. Et ça, j'ai dû d'ailleurs au début vachement me forcer à ne pas jouer le Suisse, qui a tout nickel, dans une boîte. Et un peu que ça dégueule, parce que bon, on fait quand même une musique de mecs qui disons, sont pas forcément les plus carrés, donc il faut pas leur faire un mix trop carré. Donc je dirais, si j'ai des exemples à donner, ils sont pas spécialement dans le hip-hop, mais si je dois prendre deux exemples dans le hip-hop, alors peut-être ce que fait Mike Dean avec Travis Scott, je trouve ça assez brutal, suraigu et tout ce qu'on veut, mais putain c'est bien. Kendrick, parce que artistiquement, je pense qu'il y a un vrai propos, il y a un vrai message. C'est un album, c'est des albums un peu à l'ancienne, avec des histoires, avec des. Donc ça, je suis assez impressionné par le travail. Mais après, ça se dirige dans d'autres choses. J'aime bien Wet Leg, j'aime bien. Enfin bon, j'écoute du punk, j'écoute du rock. Ça peut aller dans d'autres choses où je trouve les mix absolument incroyables.
Tu me fais la transition parce que t'as pas bossé que dans le rap, loin de là. Ouais. Tu t'es ouvert aussi au jazz, à l'électro,
ouais.
À la pop aussi. Qu'est-ce qui t'a poussé à un moment donné à aller voir ailleurs alors que t'étais en train de faire tous les albums, enfin une bonne partie des albums du rap français? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller voir ailleurs à un moment donné?
Bon, je pense que déjà, la peur de se retrouver. Bon, déjà, je suis passionné de musique, point. De hip-hop avant tout, mais de musique avant tout. Donc, j'avais envie de toucher à toutes sortes de musiques. J'ai la sale tendance que dès que je comprends un truc, ça me saoule. Mais alors, dès que je comprends le truc, c'est fini, ça ne m'intéresse plus. Donc, j'en avais quand même pas mal sous le compteur. Bon, les mecs, ils me tapaient bien sur le système, il faut quand même le dire. Ils payaient bien, tout était bien, mais c'était trop une zone de confort. C'est-à-dire, tu m'amènes ton titre, oh merde, je vois comment je vais le faire. Oh, je savais, les réglages de mes machines, je les avais dans ma tête. Ah, c'est là que tu veux aller, d'accord, ok, on va aller là. Au bon moment, tu t'emmerdes, je ne fais pas un job de bureau. Donc, chaque défi qui pouvait arriver, ouais, là, il me met la pression, le mec. Ouh là 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 là, ok, je suis incapable de faire ça, mais je vais lui dire oui. Déjà de un, donc une des raisons. Le jazz, particulièrement, j'en écoutais beaucoup, mais la personne qui m'a approché en premier voulait justement un son de jazz, pas jazz. Il voulait mélanger ce truc de distorsion, de hip-hop, de puissance dans un disque de jazz. Donc ça, c'était une autre expérience pour moi, mais c'était quand même un disque de jazz sur Blue Note en plus à l'époque. La curiosité, le problème, c'est que j'ai vite tourné en rond. C'est-à-dire, ouais, mais alors si c'est pour faire de la variété, non. Et puis ma grande chance a été de toucher à la musique électronique. Alors, j'avais beaucoup de potes dans la musique électronique, donc ça aide, qui m'ont ouvert des portes. Cette musique ne se faisait pas en studio, il faut le savoir au tout début. Très, très, très peu allaient dans des studios comme ça pour faire leur musique, ils la faisaient à la maison. Et c'est vrai que, bon, bah, la chance, l'énorme chance de pouvoir rentrer dedans, puis une fois que t'es dedans, quoi. Et c'est vrai que, bon, voilà, la curiosité, je crois que c'est ça, avant tout.
T'as travaillé avec, ben, pour les citer, il y a du Madonna, du David Guetta. Récemment, le DJ sud-africain Black Coffee, avec lequel t'as gagné un Grammy Award l'année dernière. Bah, peut-être revenons là-dessus, sur le Grammy, quand même. Comment ça s'est passé?
Alors, dans le cas de Black Coffee, c'est vrai que c'est... il était sur une scène, on va dire, house sud-africaine, un petit peu comme ça. Il a décidé à un moment de s'ouvrir et décidé consciemment de faire un album pop. Mais quand je l'ai rencontré, ça c'est un des seuls artistes que j'ai rencontré. Le premier jour où je l'ai rencontré, il avait 3 millions de followers sur Instagram. Bon, j'avais jamais entendu parler du mec, il n'y avait pas une seule voix dans sa musique. Donc on parle d'un truc, un phénomène un peu incroyable. À un moment, il décide de faire un album plus pop, donc de trouver des featuring qui peuvent correspondre à cet album plutôt américain, parce que bon, les Grammy, tatati, ça doit être un peu lié. Fil en aiguille, on a un pote en commun pour qui j'ai mixé pendant une dizaine d'années, DJ Grégory, qui me met en contact, et puis voilà, ça clique, je fais le truc, c'est parti. Et puis tous les 3-4 mois, il y avait un titre. Alors, une fois, c'était Usher, après, c'était Guetta qui a correspondu dessus. Il y a eu Pharrell, il y a eu. Voilà, et puis ça te met dans un système. Puis tout d'un coup, le mec, il est dans une liste de mecs nominés. Puis c'est pas plus compliqué que ça, quoi. Voilà. Mais je suis très fier, très content, excessivement content de l'avoir fait avec un artiste qui n'est pas américain. Parce que c'est extrêmement difficile. Et en tant qu'ingénieur européen, c'est dur, hein. Enfin, les Grammy, il y a 5 trucs. Et puis bon, pas la 60e nomination dans la musique de yoga, quoi. Non, mais enfin, je dis rien contre le yoga, hein, juste que ça soit clair. Mais je vais dire, bon, quand même, Electronic Dance, je ne l'aurais pas eu cette année, puisque Beyoncé était nominée dans Electronic Dance, quand même, il faut le faire. Voilà, je ne l'aurais pas eu, donc voilà, très content. Très content.
Oui, totalement.
Très content.
Dans ces 15 dernières années, avec tous ces artistes-là, ces stars internationales, quelles sessions t'ont le plus marqué? Quelles rencontres t'ont le plus marqué?
Tu peux pas passer à côté de Madonna. C'est pas possible parce que j'aurais jamais pensé que c'était ce niveau. Enfin, je suis pas. En fait, c'est rigolo parce que bon, pour parler un tout petit peu de ça rapidement, enfin, on va essayer. Je suis parti de Lausanne en disant à mes potes, un jour, je travaillerai avec Madonna. Ils sont tous foutus de ma gueule, évidemment, j'avais 20 piges, c'était déjà une icône. Et pourquoi Madonna? Alors le mec il est passionné de hip-hop, il dit Madonna, mais bon, faut pas chercher. J'étais très motivé à ça. Bon bref, l'histoire arrive, Martin Solveig est demandé pour produire un album et elle veut toujours qu'en gros, tout le crew vienne. Si t'as produit un titre dans ton truc et qu'elle te veut, elle te veut toi, ton ingénieur, bon. Donc en gros, elle te fait venir, il te prépare à peu près un mois psychologiquement avant que tu la rencontres. Donc sachant ce que tu as le droit de faire et pas faire. tu signes des contrats d'exclusivité où tu n'as pas le droit d'en parler, tu n'as pas le droit de parler de ce que tu as vu. C'est un peu particulier, on va dire. Et puis, là, j'ai vu ce que c'était le niveau d'une vraie pop star. C'est-à-dire pas à demi, pas un mec qui marche en France puis tu ne peux plus lui parler déjà. Non, là, c'est n'importe quoi. Le niveau est extraordinaire. L'écriture en direct, le beat, il tourne. Les paroles se mettent et en une demi-journée, c'est plié. Une mémoire phénoménale, une culture, mais alors, juste, on est largué. Et je crois qu'elle a 148 de QI, donc de toute façon, l'affaire, elle est réglée. J'ai rien compris, quoi. C'était vraiment incroyable. Et c'est là que j'ai vu... Ah ouais, c'est comme ça, là-haut. En me prévenant bien qu'il y avait 6 mecs qui avaient été virés avant moi. Donc, ça serait bien que je tienne plus que 2 jours. Ou elle, après 2 jours, c'est... Elle te demande ce que c'est ton métier. Donc, si elle te demande ce que c'est mal barré. Donc, j'ai tenu 12 jours, c'est pas mal, non ? Donc, voilà, j'ai fait plusieurs producteurs sur l'album qui s'appelle MMDNA.
Et je, 2011,
dans le studio de... Alors, je sais pas si... Là, je vais sortir une vieille référence, mais le studio de Trevor Horn à Londres, où c'est lui. Je sonne à la porte, c'est lui qui m'ouvre. Bon, si vous allez sur Internet et vous faites radio, machin, vous allez vite voir qui c'est. Un très, très gros producteur anglais. Ou Prodigy, d'ailleurs, avait une room dans le même studio. Enfin, c'était... Mais enfin, je n'y croyais pas. Là, je viens de Lausanne, tu as décidé de faire ce taf. Elle arrive et c'est parti. Et là, c'est parti. Et donc, la plus grosse expérience, c'est clair. Parce que c'est extrêmement dur de tenir. C'est extrêmement exigeant. Il y a 3 assistants. C'est une autre façon de travailler, quoi. Puis elle veut que tout le monde soit en studio. Donc, il faut que ça bouge. Il faut, dès qu'elle demande un truc, il faut que ça soit attaque. Donc, j'ai vu l'exigence. Et encore une fois, le but, c'était de voir. C'était pas de rester. C'était, ah, mais c'est comme ça. Ah, ça va aller. Et c'était dur pour moi après. Parce que la vraie question, c'est qu'est-ce qui te motive après Madonna ? Mais ça peut paraître bête, c'est super prétentieux, mais qu'est-ce qui te motive, quoi ? Beyoncé, mais comment ça ? Non. Bah, ça ne peut pas te motiver, il y a tellement de pression. Donc je ne vois pas ce qui... Donc je me suis redirigé sur des trucs que j'aimais, sur des trucs qui me touchaient. Et là, j'ai une énorme chance, c'est que j'ai pu boucler la boucle ces dernières années, ces 3 dernières années, en travaillant avec du rap aux États-Unis. Et ça, j'avoue que c'était le dernier bastion pour un ingénieur qui n'est pas là-bas, qui vit à Paris, enfin, juste en dehors de Paris. C'est toujours assez incroyable de recevoir des sessions et de te dire « mais c'est pas vrai, je suis pas en train de bosser qu'alchimiste, là, je suis en train de mixer ces trucs, c'est une blague. » Voilà, donc ça, je suis assez content de la loupe qui s'est opérée.
T'as cité Alchemist là, ouais. Mais avec qui d'autre dans le rap récemment t'as bossé ?
Bon, je passe pas mal avec Alchemist, évident, c'est tous les gens qui tournent un peu autour, mais là, disons que la démo que je fais, enfin la démo, enfin, les 2-3 exemples qu'on peut montrer, il y a eu Nas, tellement de. Enfin, tous les nouveaux mecs, c'est. Il se passe des trucs, j'ai un peu de la peine à de temps en temps réaliser en fait.
Justement, j'allais te demander, ça fait plus de 30 ans que t'as commencé.
Ouais.
Est-ce que t'as toujours la même passion qu'au début ? Je pense qu'on a un peu la réponse, mais développe.
Ouais, le jour où j'aurai plus envie, vous me verrez plus. Moi, j'ai déjà pas vu avant, mais je vous garantis, que vous me verrez pas. Je suis dans mon truc, quoi. Il faut que je kiffe. Ah, tu m'amènes ta musique, il faut que je me lève le matin, que ça me donne envie de la mixer. Pour être très franc, les moyens des mecs sont un peu quand même plus bas qu'avant. Il n'y a plus tout à fait les mêmes budgets. Donc, il faut que je kiffe. Sinon, on prend un autre ingé. Et honnêtement, il y en a plein. Bah, regardez là, il y en a plein. Moi, j'ai envie de kiffer. J'ai envie que le mec soit content. Et vraiment, mon premier but à n'importe quel projet depuis le jour 1, est-ce que l'artiste est content ? C'est pas moi qui dois être content. Est-ce que tu assumes ton disque ? Tu sors là dehors, tu vas le vendre à la Fnac, tu vas te faire des showcases, c'est toi qui vas porter ce disque. Est-ce que c'est OK pour toi, ce que tu entends ? Sinon, on fait des modifications. Et toute cette école de « ouais, mais vas-y, moi, je suis ingénieur du son, t'as vu, je sais ce que je fais, tu devrais plutôt faire comme ça », ça m'a jamais parlé. Moi, j'ai toujours été « bon, viens, on fait le truc ensemble, on le fait bien et on le fait pour que tu l'assumes. C'est pas moi qui vais vendre le disque. »
Est-ce qu'il y a des fois où toi tu penses avoir une meilleure vision de la musique de l'artiste que l'artiste lui-même, et tu es un peu en contradiction avec lui sur ce truc-là.
Bah, je vais répondre à ta question très simplement. Sur l'album de Diams qui a vendu 2 ou 3 millions d'albums, j'ai pas mis mon nom. J'ai enlevé mon crédit, ils m'ont demandé si je faisais une blague. Ils m'ont demandé si je faisais une blague EMI. Mais il faut que tu me l'écrives dans un mail parce qu'en fait, il faut qu'on ait une trace que tu veuilles pas. Puis je suis là, mais non, mais je veux pas. Mais tu te rends compte à qui tu dis ça? Bah ouais, je me rends compte, bien sûr, je me rends compte. Vous avez pris mon mix et vous l'avez détruit au mastering, j'ai pas peur de le dire, j'assume pas. Donc, très bien, vous m'avez payé, je suis content et je suis super heureux de l'avoir fait et d'avoir collaboré, mais là je suis désolé, je mets pas mon nom. Il y a pas mon nom sur Rof d'ailleurs aussi, t'as pris 2 exemples, il y a pas mon nom. Mais putain, merde. Mais ouais, c'est pour d'autres raisons, mais voilà, bah, je pense que ça répond à la question.
On arrive bientôt vers la fin, mais on a encore quelques questions. Question un peu plus large, quels sont les projets au cours de ta vie d'auditeur, hein, cette fois-ci, qui t'ont mis, qui t'impressionnent du point de vue du mix, qui sont des références pour toi, projets que tu considères super bien travaillés de ce point de vue-là?
Du mix ou plutôt éventuellement de la texture globale? Là tout de suite.
En vrai, c'est lié.
Il y en a un qui me vient comme ça. Ouais, où je crois que j'ai vraiment rien compris, c'était Chronique 2001. Je crois que là, j'ai vraiment rien. Là, c'était plus loin que tout. Toi, c'était le mec qui drop son truc. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une bombe. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça fait du bien. Ça faisait du bien. Là, il y a moins ça, et c'est ce que je retrouve des fois avec Kendrick, il y a ce truc-là. Tu t'écoutes le truc et tu dis, ah ouais, putain, le mec, merde, il a cogité.
Dr. Dre, en vrai, au départ, c'est un ingénieur du son. Hein.
Voilà, ouais. Producteur ingénieur du son. Mais c'est vrai que, Dre, je pense que si on doit prendre un exemple, bon, c'est pas récent, hein. Ça fait vraiment un peu vieux con de dire ça, putain. Mais bon, je vais aimer des trucs, j'aurais aimé GMT, je vais aimer des trucs, beaucoup de trucs anglais, où les mix sont tout pétés, quoi. Mais tout pétés. Mais putain, artistiquement, ils sont incroyables. C'est juste que, ouais, vas-y, mets le truc. Et ça, c'est bien, tu vois, de pas trop réfléchir, fous le truc. Des groupes, je sais pas, j'ai pas d'exemple forcément en tête, mais quand je disais Wet Leg tout à l'heure, je trouvais ça, c'était bien vu, super simple, la production est mortelle, mais voilà, bon, après, dans le hip-hop, là récemment, j'ai pas 10 millions d'exemples, faudrait que je creuse un peu dans ma tête, mais...
Aujourd'hui, tu es toujours très actif. Mm-hmm. C'est quoi ton actualité du moment? C'est-à-dire, je crois que t'as évoqué tout à l'heure le fait que t'avais ouvert des studios.
Oui, alors, avant tout, je dirais que là, la suite... Enfin, en tout cas, ce qui va me motiver, je sens, dans la suite, c'est plutôt... J'ai passé beaucoup de temps à modifier les machines que vous voyez là-bas. La SSL en entier, je l'ai modifiée. Puis j'ai toujours gardé ça dans ma tête. C'est-à-dire l'écoute, je l'ai gardé dans ma tête. J'ai un système d'écoute particulier. Je crois qu'il est temps de pouvoir donner ça un peu plus au monde. Donc ça serait développement d'une marque audio. Et qui pourrait vraiment convenir au studio de manière générale. Je trouve que on ouvre n'importe quoi, les écoutes c'est n'importe quoi, ce que t'entends c'est n'importe quoi, il n'y a plus personne qui a la référence d'où on doit aller, et voilà, donc ça serait plutôt ce chemin là le mix, je dirais. Là il se passe par des gens que je connais. Je veux dire, le mec qui écrit sur mon site demain, bonjour, j'aimerais mixer mon titre, ouais, alors je te connais pas. Je ne sais pas où je tombe. Je vais me prendre la tête. Oui, tu vas me prendre la tête. Donc, c'est plus quand même un truc de réseau, d'amis. Et je dois kiffer. Donc, tant que je kiffe, je le ferai. Le fait d'être à la maison, parce que maintenant, j'ai un studio chez moi, de l'avoir construit, de l'avoir fait, ça, je trouve que c'est un énorme confort. On n'a pas un son moins bien que dans un studio comme ça. Donc je dirais que tant que je kiffe, je serai là, mais j'ai vaguement aucune idée de quand ça va s'arrêter. Là, il y a des moments où ça peut commencer à me taper le système. Parce que ce qu'on ne parle pas là, et qui serait l'objet d'une autre conférence, le business de la musique, c'est autre chose. Hein. C'est-à-dire que là, on voit le mec, il est rigolo avec ses boutons, il fait ses mix. Mais par contre, les 90% du temps que je passe, c'est vraiment à autre chose qu'à mixer. C'est-à-dire dealer, tatati, ça. Donc bon, j'ai un management, j'ai ça. Mais je veux dire, il faut filtrer. Le reste de l'humain, d'ailleurs, autre chose qu'on n'a pas parlé. Mais voilà.
Tu veux en parler un peu?
Tu veux peut-être évoquer le fait de pourquoi je mixe et pourquoi je n'enregistre pas.
Ouais. Donc pourquoi tu es un peu tout seul dans ton coin plutôt que en studio avec les artistes?
Voilà. Et puis ce que tu me dis, ce qu'on a échangé aussi sur le fait que des fois certains ingénieurs se sentent un peu psy.
C'est vrai
que c'est un truc qu'on peut adresser, quoi. C'est important.
C'est vrai, il y a souvent des ingénieurs du son, pardon, qui disent que ouais, il y a un petit côté psy dans leur travail avec l'artiste.
Mais c'est pas faux. Et puis moi, j'en ai toujours eu rien à foutre. Mais je t'ai dit, mais rien à foutre. Tes problèmes, laisse-les chez toi. Tu t'es fait quitter hier. Je suis d'accord. Je sais, franchement, c'est triste. Tu vois, je conçois, franchement, c'est dur et tout. Mais j'en ai rien à foutre. Et on doit faire un disque, je suis payé. Donc, soit tu veux que ton disque soit bien, soit tu veux me raconter tes problèmes. Donc, quand tu enregistres, si tu as cette attitude, il ne faut pas enregistrer. Parce que ce n'est pas cool. Ça veut dire, nombre de fois où j'ai vu au studio d'Avou, où le mec, il était ingénieur maison, donc du coup, il ne choisissait pas ses projets. Mais il était mauvaise humeur. Ou il avait bu, le mec. Donc du coup, bon, t'es dans une situation où ils traitent mal les gens et tout. Et ça, même des ingénieurs externes qui traitaient mal leurs clients en prise, c'est pas cool. Je fais pas ce métier pour ça. J'ai pas envie qu'on vienne me prendre la tête, d'ailleurs. Et je trouve qu'en enregistrement, t'as une relation avec l'artiste comme en production. T'es obligé d'être connecté dans son cerveau. C'est-à-dire, tu dois être avec lui, tu l'accompagnes, par exemple, en production pendant 3 mois sur un album. Mixer, ça va me prendre 1 à 2 jours, je dirais maintenant plutôt 2 jours. Pour bien nail le truc, ça va me prendre 2 jours. Mais je suis tout seul. Et j'ai tous les mecs qui sont aux États-Unis, ils sont en Angleterre, ils sont en Italie, en Allemagne. Donc je n'ai pas de contact. Et le mec, il n'est pas sur mon épaule. Ah, qu'est-ce qu'il va encore me dire aujourd'hui? Comment est-ce qu'il va arriver? Dans quel état d'esprit? J'arrive pas à dealer avec ça. Mais c'est vrai que c'est très difficile dans ce métier. Et en live, c'est difficile aussi. Tu es quand même obligé d'être avec des gens. Pour la raison pour laquelle je n'ai pas fait de live non plus, parce que j'ai beaucoup de peine à dealer avec l'humain, de manière générale. Tu rigoles, mais c'est vrai. J'ai beaucoup de peine aussi, il faut que ça puisse paraître. De la peine à... Voilà, je trouve que c'est... Il ne faut pas tout mélanger. Et c'est vrai que j'ai... D'ailleurs, Smalios m'avait beaucoup inculqué ça, quoi. Alors, c'est... Voilà, il y a des compartiments, quoi. Je pense que ça, c'est pour se protéger aussi, de ce monde-là.
On arrive à la fin. Peut-être que tu seras encore dispo après pour discuter avec...
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour partager. Voilà. Il n'y a pas de problème. Avec plaisir.
Mais j'espère sincèrement déjà que c'était intéressant pour vous. Peut-être inspirant pour certains qui sont déjà dans le métier. Un grand merci, Philippe, pour ton temps, pour le partage. Je suis content que tu aies voulu parler. Voilà, ouais, on peut l'applaudir. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, en tout cas, de votre venue. C'était vraiment super.
Ouais. On espère qu'il y en aura d'autres.
T'as
encore beaucoup de choses à raconter, je pense.
Mon Dieu, on a touché 5% là.
Voilà.
En merci tout cas, merci beaucoup de votre temps.
Merci à vous d'être venu. Prenez soin de vous. À la prochaine.
Merci.
Ciao.
Bien.
La place. L2P Convention en podcast. Rencontres, conférences et talk. Par La Place.